Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
De retour au 88.3 CFAQ pour le 9. Aujourd'hui, nous parlons d'une publication à venir du côté des éditions Somme toute le devoir. On tente de répondre à la question « Sommes-nous une société émotive? » L'État du Québec 2025, comme je le disais, qui paraîtra le 12 novembre prochain. On reçoit ce matin l'un des signataires d'un texte très intéressant sur... dis-je bien, sur l'ancrage à droite et la méfiance envers les institutions. On parle à M. Sylvain Bédard, doctorant en philosophie pratique à l'Université de Sherbrooke et coordonnateur scientifique de la chaire UNESCO en prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent. Bonjour, M. Bédard.
Bon matin.
Alors, voilà, donc vous signez le chapitre 8 avec vos collègues Marie-Ève Carignan et David Morin sur voilà, la méfiance envers les institutions. Il y avait une publication d'ailleurs qui a fait grand bruit dans cette même sphère un peu réactionnaire sur les réseaux sociaux précédemment en 2022. Pour introduire la principale publication, sommes-nous une société émotive? Qu'est-ce qu'on entend, d'après vous, par société émotive?
Ben, oui, c'est intéressant de partir du thème général de l'État du Québec cette année, dont on était particulièrement content qu'on a été approché, parce que c'est exactement dans cet angle-là là, qu'on appréhende les phénomènes qu'on étudie. On pourrait dire d'emblée que toute société est émotive, hein? Toute société est traversée d'un ensemble, d'une diversité d'émotions qui vont la définir, qui vont définir sa manière de fonctionner, qui vont définir son avenir. Puis c'est particulièrement dans cette diversité-là qui crée des accrochages et qui peut être source de radicalisation, voire d'extrémisme potentiellement violent, qui peut, dans des versions plus soft, être polarisation qui nuit à notre capacité de réfléchir collectivement. Donc, l'émotion, en ce sens-là, peut être à la fois positive ou négative. Elle est là. On peut pas l'enlever, on peut pas la minimiser. On vit avec, c'est tout. Mais toute société est traversée d'une myriade d'émotions.
Quelles seraient les émotions qui se manifestent particulièrement au Québec, dans la vie publique et politique? Qu'est-ce que vous avez observé dans ce que vous avez vu, peut-être?
Oui, bien, a priori, je me méfie un peu des généralités, c'est-à-dire je ne veux pas donner, je veux pas faire semblant qu'au Québec, tout le monde se sent de la même manière, tout le monde est sur le même mood. Ce qu'on étudie plus particulièrement, c'est une partie des Québécois, des Québécoises qui ressentent des émotions assez intenses. On peut parler de détresse, on peut parler d'inquiétude par rapport à l'avenir, par rapport à leurs finances. On peut parler de colère aussi par rapport à l'élite, par rapport à la science, par rapport au gouvernement. C'est là où le ton devient relativement contestataire, alors que ce qu'on avait peur il y a quelques années, c'était le cynisme ou l'apathie politique. Mais on dirait que c'est moins ça qui émerge qu'une nouvelle énergie militante, mais qui découle de sentiments de méfiance et de colère par rapport aux élites. Donc c'est là où on voit l'émergence, la consolidation de mouvements de droite radicale et de discours conspirationnistes.
D'après vous, qu'est-ce qui fait en sorte que ce discours-là accroche davantage aujourd'hui? Parce qu'il a toujours existé, là. Ça, c'est pas complètement nouveau, mais qu'aujourd'hui, en Europe, il y a des gouvernements plus à droite, voire extrême droite, qui gagnent du pouvoir, puis c'est pas étranger non plus de notre côté d'Atlantique. Fait que qu'est-ce qui fait en sorte que ce discours-là est plus accrocheur, entre guillemets?
Oui, ben effectivement, vous faites bien de rappeler que tu sais, des discours conspirationnistes, il y en a toujours eu. D'ailleurs, j'en profite pour souligner que c'est pas nécessairement en soi une erreur de raisonnement ou un vice de raisonnement. C'est-à-dire, c'est de supposer, puis en grande partie, le pouvoir est fait comme ça, qu'il y a une partie de ce que l'élite ou le pouvoir fait dont on est plus ou moins conscient, puis on peut s'en inquiéter pour des bonnes ou mauvaises raisons. La différence du conspirationniste, c'est qu'il va s'exprimer ou il va exprimer sa suspicion par rapport à différents ennemis. Puis là, alors qu'il y a eu des complots malheureusement concernant les Juifs ou concernant d'autres populations immigrantes ou ce genre de choses-là, ben là, le conspirationniste qui s'exprime actuellement est surtout basé sur les élites politiques actuelles qui seraient de mèche, comme si, ce qui permet de toutes les mettre dans le même panier avec une certaine élite économique. Mais aussi, puis c'est là où on perd un peu la capacité collective de discuter, qui s'exprime aussi envers la science ou envers les journalistes qui étaient avant fournisseurs d'une espèce de point neutre politique, pas nécessairement parce qu'ils n'expriment que des faits, hein, ils sont capables de les mettre en contexte, sont capables d'avoir eux aussi leurs émotions, mais il y avait un esprit de neutralité qui était présent dans ce discours-là, alors que quand tu es tout à fait méfiant de l'ensemble de ces institutions-là, ben là, on est en d'autres choses, on est dans de contester la science, par exemple, est un phénomène très polarisant, parce qu'il y en a qui vont dire que la science a absolument raison. C'est peut-être un peu grossier de leur part aussi. La science peut se tromper, mais bref. Et d'autres pensent que la science se trompe systématiquement. Ben, c'est une source majeure de polarisation à laquelle on assiste plus récemment. On l'a vu pour la pandémie, on le revoit pour les changements climatiques. Donc, la polarisation autour de la science est vraiment importante, et on pourrait dire qu'elle est une des caractéristiques là, du conspirationnisme contemporain versus d'autres qui faisaient surtout appel à des boucs émissaires. Ici, on est vraiment sur un conspirationnisme par rapport à l'élite politique, intellectuelle, scientifique.
Oui, parce que en ce moment, c'est suspicieux qu'il y ait une unanimité et que soudainement, on trouve la personne qui dit le contraire et on se fie soudainement à cette personne-là davantage. J'ai envie de vous demander, est-ce qu'on peut voir en ce moment des exemples concrets de décisions qui ont été influencées par des émotions collectives ou individuelles, peut-être?
Oui, ben, il m'en vient une en tête parce qu'on parlait de la pandémie, puis je veux aussi me servir de votre question pour illustrer que les émotions ne sont pas nécessairement négatives. Ben, tout autour de la pandémie, il y a eu beaucoup de précautions qui ont été prises. Mm-hmm. Les contestataires des mesures sanitaires n'avaient pas complètement tort quand ils disaient que les études scientifiques n'étaient pas toutes faites là, concernant est-ce que c'est important de porter le masque, est-ce que c'est important de se distancier, est-ce que le virus peut vivre sur des surfaces. Donc, il y avait beaucoup de doutes. L'émotion, collectivement, qu'on a décidé d'assumer, c'est celle de la précaution. On peut l'appeler de la peur, de la crainte. C'est pas nécessairement déraisonnable, la peur ou la crainte. Oui. Mais ça nous a amené à faire attention, à dire, ben prenons pas de chance. On est capable de mettre un masque, on est capable de se distancier, on est capable de mettre le Québec sur pause. On croit que ça va sauver des vies. Ben, c'est un exemple d'émotion. L'empathie, hein, ça en est une émotion. Donc, c'est un exemple d'émotion qui peut être positive, là.
Oui, ben effectivement. Puis, ben, en fait, c'est souvent ce que j'ai personnellement également remarqué, c'est les discours vont commencer avec quelque chose qui se peut. Donc, justement, vous le dites que est-ce que le consensus est vraiment là? Mais rapidement, ça dérive vers ils veulent nous enfermer dans des villes 15 minutes. Fait que, tu sais, c'est pour ça que souvent avec le discours conspirationniste, j'ai l'impression c'est qu'on tombe dans des extrêmes où, justement, on prend une débarque, finalement, dans la rhétorique.
Oui, ben ils n'ont pas le monopole de l'exagération rhétorique, mais effectivement, ça fait partie des patterns un peu caractéristiques. Ce qui rend, encore une fois, la discussion un peu difficile devant ce genre de constat-là, c'est une des choses qu'on déplore, non pas leur croyance comme telle, mais la capacité collectivement de dialoguer, de faire valoir un point de vue et un autre, alors que là, on est tellement dans une situation de conviction que ça devient difficile d'échanger, là, alors que c'est la base de la démocratie que d'être capable d'échanger en situation de désaccord.
Oui, tout à fait. Autour de la table, j'avais ma collègue Anaëlle qui avait une question pour vous. Anaëlle?
Oui. Bonjour, M. Bédard. Je suis Anaëlle Gomas. Et j'avoue que le sujet est très intéressant. Du coup, j'avais une question. C'est celle de savoir en quoi cet ouvrage se distingue-t-il des autres publications sur l'État du Québec?
Vous voulez dire l'édition de cette année?
Oui.
D'abord, comme vous, j'ai pas lu l'édition de cette année, donc elle n'est pas encore sortie. Je ne connais que mon texte. mais la thématique me semble se démarquer de ce qui se fait actuellement. Donc, c'était plutôt audacieux d'axer sur l'émotion, qui est quand même une... qui est quand même un phénomène dont on a du mal à se faire une tête sur politiquement. Est-ce qu'on en veut, on n'en veut pas de l'émotion? Donc, nous, la ligne qu'on a pris là-dessus, c'est qu'il y a des émotions positives, il y en a des négatives. Il faut être attentif aux émotions de nos concitoyens, même quand ils disent des choses qui nous semblent surprenantes ou peu probables, ben en fait, ils nous disent autre chose que ce qu'ils nous disent. Ils peuvent nous parler de leurs craintes, ils peuvent nous parler de leurs espoirs, ils peuvent nous parler de leurs frustrations. Donc, souvent, c'est pertinent, même dans un débat politique assez pointu, assez factuel, d'aller voir ce qu'il y a derrière. Donc, bref, j'ai bien hâte de lire les textes de mes collègues que j'ai pas lus, les autres chapitres, mais j'ai l'impression que ça va nous faire un beau tour de la question sur quelque chose que je trouve effectivement assez important comme angle d'analyse pour savoir où en est le Québec aujourd'hui.
Super, merci beaucoup.
Vous le disiez, la discussion parfois peut être difficile avec les gens qui, bon, de manière très émotive, vont croire fermement à ce qu'ils vont lire, par exemple, sur Internet. Est-ce qu'il y a des pistes de solutions peut-être pour tenter d'ouvrir le dialogue ou c'est malheureusement chose perdue?
Ben, d'abord, il y a deux volets à votre question. Vous avez parlé de l'influence d'Internet. C'est pas inintéressant, c'est-à-dire il y a quelque chose comme une espèce de démocratisation, pour le meilleur ou pour le pire, du discours public sur Internet. C'est donc, vrai. Évidemment qu'on peut, on peut dire que c'est par là où les énormités ou la frustration circulent, mais c'est par là où les gens s'expriment, c'est par là où les gens échangent. Bref, il y a deux côtés à cette médaille-là. Mais la question de la capacité de dialogue, pour moi, dépasse le fait. Et vraiment, personne n'aime se faire dire qu'il y a tort. Donc, quand on engage la conversation immédiatement sur la question du fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on perd une occasion de conserver le contact avec quelqu'un qui est un concitoyen, qui est notre égal à bien des égards, et qui a droit de vivre des émotions, ses frustrations, tout ça. Donc, peut-être faire preuve de curiosité envers l'autre me semble déjà une belle ouverture, c'est-à-dire au-delà de contester les faits, puis ça ne nous oblige pas à être d'accord avec cette personne-là à la fin de la discussion. J'ai dit la démocratie, c'est d'être d'accord pour être en désaccord, mais on peut quand même respecter l'autre, on peut quand même essayer de comprendre sa façon de penser. Bref, toutes des pistes qui sont susceptibles d'apaiser les polarisations sociales plutôt que de les accentuer.
Diriez-vous que le discours populiste peut entrer dans cette catégorie-là de décisions prises par les émotions, tu sais, que ce soit un troisième lien, que ce soit les toilettes genrées, qui sont des micro-débats ou à peu près, et que finalement, ben, c'est une gang contre l'autre au final, là?
Oui, ben c'est un peu la job du gouvernement, hein, de faire l'arbitrage entre ces différentes émotions-là, parce que, comme j'ai dit, ils sont contradictoires, ils vont dans tous les sens. Là, on ne dira pas que le Québec pense une seule chose. Mm-hmm. Donc, c'est au gouvernement de faire l'arbitrage de ça. Bien sûr qu'il va le faire selon les émotions de la population, c'est-à-dire ce qu'on appelle couramment, ou ce qu'on mesure par sondage, les opinions. Souvent derrière, c'est des valeurs qui se cachent, c'est un sentiment de satisfaction ou d'insatisfaction par rapport à une situation, par rapport à sa vie en général. Donc, dans ce mesure-là, ça ne me dérangerait pas de dire que la plupart des décisions politiques sont émotives en bout de ligne. Reste à voir sur quelle émotion ils se basent, puis est-ce que la réponse est relativement adéquate. Ben, c'est là où l'arbitrage gouvernemental, des fois, est meilleur que d'autres fois.
En terminant, il y avait une partie dans votre chapitre que je trouvais intéressante, que vous disiez que le complotisme se consolide et penche à droite, mais on oublie aussi que ben il y en a à gauche aussi des gens qui adhèrent autant à des petites théories qu'aux plus loufoques. Qu'est-ce qui expliquerait que ce serait un côté plus qu'un autre?
D'abord, c'est que nous, on s'intéresse surtout à un côté. On ne dit pas que l'autre n'existe pas. Mm-hmm. Il y a clairement, ne serait-ce qu'en théorie, la possibilité d'un conspirationnisme de gauche. Il existe. Il partage d'ailleurs certains points avec le conspirationnisme de droite sur la crainte par rapport aux élites internationales, hein, qui ont surtout insisté là, depuis les 50 dernières années sur le développement économique, plus que sur les politiques sociales. Donc, ça crée un ressentiment à gauche comme à droite qui, effectivement, alimente le populisme, qui n'est pas non plus que le conspirationnisme, une mauvaise chose en soi. C'est-à-dire, le populisme, c'est de penser à la population, à ce qu'elle veut, à ses souhaits, qui sont censés s'exprimer démocratiquement, alors que l'élite, des fois, on a l'impression qu'elle écoute moyennement la population, qu'elle s'en met un peu plein les poches, on va le dire, avec la polarisation des revenus, c'est assez évident. Donc, il y a un sentiment populiste d'injustice qui peut être porteur de changements sociaux positifs. Voilà, le populisme n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Le populisme prend peut-être un peu large quand tout à coup il va s'imaginer que la science, peut-être parce qu'il la connaît mal, sert à assujettir la population et non pas sert à mieux comprendre le monde qui nous entoure. Là, c'est peut-être, ça fait peut-être partie des excès du populisme, mais je dirais que curieusement, il y a un bon fond dans un populisme de bon aloi, mm-hmm. et qui va effectivement, qui peut alimenter un conspirationniste de gauche comme de droite. Je suis pas gêné de le dire.
On retrouve l'entièreté de la publication de l'État du Québec 2025, sommes-nous une société émotive, aux éditions Somme toute le devoir, le 12 novembre prochain. Personnellement, avec Marie-Ève Carignan, professeure du département de communication de l'Université de Sherbrooke, et David Morin, de l'École politique appliquée de l'Université de Sherbrooke, on vous parlait, M. Sylvain Bédard, doctorant en philosophie pratique, ici aussi, à l'Université de Sherbrooke. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin.
C'était un plaisir.